Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Bonsoir, nous nous retrouvons pour Lectures en liberté, en compagnie de Une femme de Annie Ernaux. En 1945, ils ont quitté la vallée où je toussais sans arrêt et ne me développais pas, à cause des brouillards. Et ils sont revenus à Yvetot. L'après-guerre était plus difficile à vivre que la guerre. Les restrictions continuaient et les enrichis au marché noir faisaient surface. Dans l'attente d'un autre fonds de commerce, elles me promenaient dans les rues du centre détruits, bordées de décombres. M'emmenait prier à la chapelle installée dans une salle de spectacle en remplacement de l'église brûlée. Mon père travaillait à reboucher les trous des bombes. Ils habitaient deux pièces sans électricité, avec les meubles démontés rangés contre les murs. Trois mois après, elle revivait, patronne d'un café alimentation semi-rural dans un quartier épargné par la guerre, à l'écart du centre. Juste une minuscule cuisine et à l'étage une chambre et deux mansardes pour manger et dormir en dehors du regard des clients. Mais une grande cour, des hangars pour remiser le bois, le foin et la paille, un pressoir et surtout une clientèle qui payait davantage comptant. Tout en servant au café, mon père cultivait son jardin, élevait des poules et des lapins, faisait du cidre qu'on vendait aux clients. Après avoir été ouvrier pendant 20 ans, il est retourné à un mode de vie à demi paysan. Elle s'occupait de l'épicerie, des commandes et des comptes, maîtresse de l'argent. Ils sont parvenus peu à peu à une situation supérieure à celle des ouvriers autour d'eux, réussissant par exemple à devenir propriétaire des murs du commerce et d'une petite maison basse contiguë. Les premiers étés au congé, d'anciens clients de Lillebonne venaient les voir par famille entière en quart. On s'embrassait, on pleurait. On assemblait bout à bout les tables du café pour manger. On chantait et on rappelait l'occupation. Puis ils ont cessé de venir au début des années 50. Elle disait « C'est le passé, il faut aller de l'avant ». Image d'elle, entre 40 et 46 ans. Un matin d'hiver, elle ose entrer dans la classe pour réclamer à la maîtresse qu'on retrouve l'écharpe de laine que j'ai oubliée dans les toilettes et qui a coûté cher. J'ai su longtemps le prix. Un été au bord de la mer, elle pêche des moules à Veules-les-Roses avec une belle-sœur plus jeune. Sa robe mauve à rayures noires est relevée et nouée par devant. Plusieurs fois, elles vont boire des apéritifs et manger des gâteaux dans un café installé dans un baraquement près de la plage. Elle rit sans arrêt. À l'église, elle chantait à pleine voix le cantique à la Vierge. « J'irai la voir un jour, au ciel, au ciel !» Cela me donnait envie de pleurer, et je la détestais. Elle avait des robes vives et un tailleur noir en grains de poudre. Elle lisait Confidence et la mode du jour. Elle mettait ses serviettes avec du sang dans un coin du grenier jusqu'au mardi de la lessive. Quand je la regardais trop, elle s'énervait. « Tu veux m'acheter ?» Le dimanche après-midi, elle se couchait en combinaison avec ses bas. Elle me laissait venir dans le lit à côté d'elle. Elle s'endormait vite, je lisais, blottie contre son dos. À un repas de communion, elle a été saoule et elle a vomi à côté de moi. À chaque fête ensuite, je surveillais son bras allongé sur la table, tenant le verre, en désirant de toutes mes forces qu'elle ne le lève pas. Elle était devenue très forte. 89 kilos. Elle mangeait beaucoup. Gardait toujours des morceaux de sucre dans la poche de sa blouse. Pour maigrir, elle s'est procuré des pilules dans une pharmacie de Rouen en cachette de mon père. Elle s'est privée de pain, de beurre, mais n'a perdu que 10 kilos. Elle claquait les portes, elle cognait les chaises en les empilant sur les tables pour balayer. Tout ce qu'elle faisait, elle le faisait avec bruit. Elle ne posait pas les objets, mais semblait les jeter. À sa figure, on voyait tout de suite si elle était contrariée. En famille, elle disait ce qu'elle pensait en paroles abruptes. Elle m'appelait chameau, souillon, petite garce, ou simplement déplaisante. Elle me battait facilement, des gifles surtout, parfois des coups de poing sur les épaules. Je l'aurais tuée si je ne m'étais pas retenu. 5 minutes après, elle me serrait contre elle et j'étais sa poupée. Elle m'offrait des jouets, des livres à la moindre occasion, fêtes, maladies, sorties en ville. Elle me conduisait chez le dentiste, le spécialiste des bronches. Elle veillait à m'acheter des bonnes chaussures, des vêtements chauds, toutes les fournitures scolaires réclamées par la maîtresse. Elle m'avait mise au pensionnat, non à l'école communale. Quand je remarquais qu'une camarade avait par exemple une ardoise incassable, elle me demandait aussitôt si j'avais envie d'en avoir une. « Je ne voudrais pas qu'on dise que tu es moins bien que les autres. » Son désir le plus profond était de me donner tout ce qu'elle n'avait pas eu. Mais cela représentait pour elle un tel effort de travail, tant de soucis d'argent et une préoccupation du bonheur des enfants si nouvelle par rapport à l'éducation d'autrefois qu'elle ne pouvait s'empêcher de constater « Tu nous coûtes cher » ou « Avec ce que tu as, tu n'es pas encore heureuse. » J'essaie de ne pas considérer la violence, les débordements de tendresse, les reproches de ma mère comme seulement des traits personnels de caractère, mais de les situer aussi dans son histoire et sa condition sociale. Cette façon d'écrire, qui me semble aller dans le sens de la vérité, m'aide à sortir de la solitude et de l'obscurité du souvenir individuel par la découverte d'une signification plus générale. Mais je sens que quelque chose en moi résiste, voudrait conserver de ma mère des images purement affectives, chaleur ou larmes, sans leur donner de sens. Elle était une mère commerçante, c'est-à-dire qu'elle n'appartenait d'abord qu'aux clients qui nous faisaient vivre. Il était défendu de la déranger quand elle servait. Attente derrière la porte séparant la boutique de la cuisine pour avoir du fil à broder, la permission d'aller jouer, etc. Si elle entendait trop de bruit, elle surgissait, donnait des claques sans un mot et repartait servir. Très tôt, elle m'a associé au respect des règles à observer vis-à-vis des clients. Dire bonjour d'une voix claire, ne pas manger, ne pas se disputer devant eux, ne critiquer personne. Ainsi qu'à la méfiance qu'il devait inspirer, ne jamais croire ce qu'il raconte, les surveiller discrètement quand ils sont seuls dans le magasin. Elle avait deux visages, l'un pour la clientèle, l'autre pour nous. Au coup de sonnette, elle entrait en scène, souriante, la voix patiente pour des questions rituelles sur la santé des enfants. Le jardin, revenu dans la cuisine, le sourire s'effaçait. Elle restait un moment sans parler, épuisée par un rôle où s'unissaient la jubilation et l'amertume de déployer tant d'efforts pour des gens qu'elle soupçonnait d'être prêts à la quitter s'ils trouvaient moins cher ailleurs. C'était une mère que tout le monde connaissait, publique en somme. Au pensionnat, quand on m'envoyait au tableau, « Si votre maman vend 10 paquets de café à temps », et ainsi de suite. Évidemment, jamais cet autre cas aussi réel. « Si votre maman sert 3 apéritifs à temps ?» Elle n'avait jamais le temps de faire la cuisine. Tenir la maison comme il faudrait, boutons recousus sur moi juste avant le départ pour l'école, chemisier qu'elle repassait sur un coin de table au moment de le mettre. À 5 heures du matin, elle frottait le carrelage et déballait les marchandises. En été, elle sarclait les plates-bandes des rosiers avant l'ouverture. Elle travaillait avec force et rapidité, tirant sa plus grande fierté des tâches dures contre lesquelles pourtant elle pestait, la lessive du gros linge, le décapage du parquet de la chambre à la paille de fer. Il lui était impossible de se reposer et de lire sans une justification comme « j'ai bien mérité de m'asseoir ». Et encore, elle cachait son feuilleton interrompu par une cliente sous une pile de vêtements à raccommoder. Les disputes entre mon père et elle n'avaient qu'un seul sujet – la quantité de travail qu'ils fournissaient l'un par rapport à l'autre. Elle protestait, « Et c'est moi qui fais tout ici !» Mon père lisait seulement le journal de la région. Il refusait d'aller dans les endroits où il ne se sentait pas à sa place, et de beaucoup de choses il disait qu'elles n'étaient pas pour lui. Il aimait le jardin, les dominos, les cartes, le bricolage. Il lui était indifférent de bien parler, et il continuait d'utiliser des tournures de patois. Ma mère, elle, tâchait d'éviter les fautes de français. Elle ne disait pas « mon mari », mais « mon époux ». Elle hasardait quelquefois dans la conversation des expressions dont on n'avait pas l'habitude, qu'elle avait lues ou entendues dire par des gens bien. Son hésitation, sa rougeur même par peur de se tromper, rire de mon père qui la chinait ensuite sur ses grands mots. Une fois sûre d'elle, elle se plaisait à les répéter en souriant s'il s'agissait de comparaisons qu'elle sentait littéraires. « Il porte son cœur en écharpe » ou « Nous ne sommes que des oiseaux de passage » comme pour en atténuer la prétention dans sa bouche. Elle aimait le beau, ce qui fait habiller, le magasin du printemps plus chic que les nouvelles galeries. Naturellement aussi impressionnée que lui par les tapis et les tableaux du cabinet de l'oculiste, mais voulant toujours surmonter sa gêne. Une de ses expressions fréquentes, « Je me suis payé de tout paix » pour faire telle ou telle chose. Aux remarques de mon père sur une toilette neuve, son maquillage soigneux avant de sortir, elle répondait avec vivacité, « Il faut bien tenir son rang. »
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets. Ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire, le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jattes. Ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Et donc après cette petite pause musicale, nous revenons à Une femme de Annie Ernaux. Elle désirait apprendre les règles du savoir-vivre, tant de craintes d'y manquer, d'incertitudes continuelles sur les usages, ce qui se fait, les nouveautés, les noms des grands écrivains, les films sortant sur les écrans. Mais elle n'allait pas au cinéma, faute de temps. Les noms des fleurs dans les jardins. Elle écoutait avec attention tous les gens qui parlaient de ce qu'elle ignorait, par curiosité, par envie de montrer qu'elle était ouverte aux connaissances. S'élever pour elle, c'était d'abord apprendre. Elle disait « il faut meubler son esprit ». et rien n'était plus beau que le savoir. Les livres étaient les seuls objets qu'elle manipulait avec précaution. Elle se lavait les mains avant de les toucher. Elle a poursuivi son désir d'apprendre à travers moi. Le soir, à table, elle me faisait parler de mon école, de ce qu'on m'enseignait, des professeurs. Elle avait plaisir à employer mes expressions, la récré, les compos ou la gym. Il lui semblait normal que je la reprenne quand elle avait dit un mot de travers. Elle ne me demandait plus si je voulais faire collation, mais goûter. Elle m'emmenait voir à Rouen des monuments historiques et des musées, à Villequier les tombes de la famille Hugo, toujours prête à admirer. Elle lisait les livres que je lisais, conseillés par le libraire, mais parcourant aussi parfois le hérisson oublié par un client en riant « C'est bête ce qu'on lit quand même !» En allant avec moi au musée, peut-être éprouvait-elle moins la satisfaction de regarder des vases égyptiens que la fierté de me pousser vers des connaissances et des goûts qu'elle savait être ceux des gens cultivés. Les gisants de la cathédrale, Dickens et Daudet, au lieu de confidences, abandonnés un jour, c'était sans doute davantage pour mon bonheur que pour le sien. Je la croyais supérieure à mon père parce qu'elle me paraissait plus proche que lui des maîtresses et des professeurs. Tout en elle, son autorité, ses désirs et son ambition allaient dans le sens de l'école. Il y avait entre nous une connivence autour de la lecture, des poésies que je lui récitais, des gâteaux au salon de thé de Rouen dont il était exclu. Il me conduisait à la foire, au cirque, au film de Fernandel. Il m'apprenait à monter à vélo, à reconnaître les légumes du jardin. Avec lui, je m'amusais. Avec elle, j'avais des conversations. Des deux, elle était la figure dominante, la loi. Des images plus crispées d'elle, allant vers la cinquantaine. Toujours vive et forte, généreuse, des cheveux blonds ou roux, mais un visage souvent contrarié quand elle n'était plus obligée de sourire aux clients. Une tendance à se servir d'un incident ou d'une réflexion anodine pour épuiser sa colère contre leurs conditions de vie. Le petit commerce de quartier était menacé par les magasins neufs du centre-ville reconstruit. À se fâcher avec ses frères et sœurs. Après la mort de ma grand-mère, elle a gardé longtemps le deuil et pris l'habitude d'aller à la messe en semaine de bonne heure. Quelque chose de romanesque en elle s'est évanoui. 1952. L'été de ses 46 ans. Nous sommes venus en car à Étretat passer la journée. Elle grimpe sur la falaise à travers les herbes, dans sa robe de crêpe bleue à grandes fleurs, qu'elle a enfilée derrière les rochers à la place de son tailleur de deuil mis pour partir à cause des gens du quartier. Elle arrive, après moi, au sommet, à bout de souffle, la figure brillante de sueur par-dessus la poudre. Elle ne voyait plus ses règles depuis 2 mois. À l'adolescence, je me suis détaché d'elle, et il n'y a plus eu que la lutte entre nous deux. Dans le monde où elle avait été jeune, l'idée même de liberté pour les filles ne se posait pas, sinon en termes de perdition. On ne parlait de la sexualité que sur le mode de la grivoiserie interdite aux jeunes oreilles, ou du jugement social, avoir bonne ou mauvaise conduite. Elle ne m'a jamais rien dit. Je n'aurais pas osé lui demander quoi que ce soit, la curiosité étant déjà considérée comme le début du vice. Mon angoisse, le moment venu de lui avouer que j'avais mes règles, prononcer pour la première fois le mot devant elle et sa rougeur en me tendant une garniture sans m'expliquer la façon de la mettre. Elle n'a jamais aimé me voir grandir. Lorsqu'elle me voyait déshabillée, mon corps semblait la dégoûter. Sans doute avoir de la poitrine, des hanches, signifiait une menace. Celle que je cours après les garçons et ne m'intéresse plus aux études. Elle essayait de me conserver enfant, disant que j'avais 13 ans à une semaine de mes 14 ans. me faisant porter des jupes plissées, des soquettes et des chaussures plates. Jusqu'à 18 ans, presque toutes nos disputes ont tourné autour de l'interdiction de sortir, du choix des vêtements. Son désir répété, par exemple, que j'ai une gaine au dehors. Tu seras mieux habillé. Elle entrait dans une colère disproportionnée, en apparence, au sujet « Tu ne vas tout de même pas sortir comme ça !» avec cette robe, cette coiffure, etc., mais qui me paraissait normale. Nous savions toutes les deux à quoi nous en tenir, elle, sur mon désir de plaire au garçon, moi, sur sa hantise qu'il m'arrive un malheur, c'est-à-dire coucher avec n'importe qui et tomber enceinte. Quelquefois, je m'imaginais que sa mort ne m'aurait rien fait. En écrivant, je vois tantôt la bonne mère, tantôt la mauvaise. Pour échapper à ce balancement venu du plus loin de l'enfance, j'essaie de décrire et d'expliquer comme s'il s'agissait d'une autre mère et d'une fille qui ne serait pas moi. Ainsi, j'écris de la manière la plus neutre possible. Mais certaines expressions, « s'il t'arrive un malheur », ne parviennent pas à l'être pour moi, comme le seraient d'autres, abstraites. Refus du corps et de la sexualité, par exemple. Au moment où je me les rappelle, j'ai la même sensation de découragement qu'à 16 ans. Et fugitivement, je confonds la femme qui a le plus marqué ma vie avec ses mères africaines, serrant les bras de leur petite fille derrière son dos, pendant que la matrone exciseuse coupe le clitoris. Elle a cessé d'être mon modèle, je suis devenu sensible à l'image féminine que je rencontrais dans l'écho de la mode et dont se rapprochaient les mères de mes camarades, petites bourgeoises du pensionnat, minces, discrètes, sachant cuisiner et appelant leur fille « ma chérie ». Je trouvais ma mère voyante. Je détournais les yeux quand elle débouchait une bouteille en la maintenant entre ses jambes. J'avais honte de sa manière brusque de parler et de se comporter, d'autant plus vivement que je sentais combien je lui ressemblais. Je lui faisais grief d'être ce que, en train d'émigrer dans un milieu différent, je cherchais à ne plus paraître. Et je découvrais qu'entre le désir de se cultiver et le fait de l'être, il y avait un gouffre. Ma mère avait besoin du dictionnaire pour dire qui était Van Gogh. Des grands écrivains, elle ne connaissait que le nom. Elle ignorait le fonctionnement de mes études. Je l'avais trop admirée pour ne pas lui en vouloir, plus qu'à mon père, de ne pas pouvoir m'accompagner, de me laisser sans secours dans le monde de l'école et des amis avec salon bibliothèque, n'ayant à m'offrir pour bagage que son inquiétude et sa suspicion. Avec qui étais-tu? Est-ce que tu travailles au moins? Nous nous adressions l'une à l'autre sur un ton de chamaillerie en toutes circonstances. J'opposais le silence à ses tentatives pour maintenir l'ancienne complicité. On peut tout dire à sa mère. Désormais impossible. Si je lui parlais de désirs qui n'avaient pas trait aux études, voyages, sports sur boom, ou discutais de politique, c'était la guerre d'Algérie, elle m'écoutait d'abord avec plaisir, heureuse que je la prenne pour confidente, et d'un seul coup avec violence. Cesse de te monter la tête avec tout ça, l'école en premier. Nous nous retrouverons donc demain pour la suite de Une femme de Annie Ernaux. Je vous souhaite une très bonne soirée.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.